Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, ou plutôt bonsoir. Un mini-crack boursier dès le 4 janvier. Des indicateurs économiques en berne, croissance, automobile, pétrole, fret, des pics de pollution records. Rien ne va plus en Chine. Alors 2016, mauvaise passe ou fin du modèle, c'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean-François Huchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à l'INALCO et directeur de l'équipe de recherche Asie. Deuxième invité, Thierry Sanjuan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géographie à l'université Paris 1 et auteur de l'Atlas de la Chine qui est paru aux éditions Autrement. Première question peut-être pour vous, Jean-François Huchet. Alors après des décennies, hein, de longues années en tout cas de croissance officielle à deux chiffres, l'année 2015 a marqué une rupture avec une hausse de production de seulement 7%. Est-ce que pour vous, c'est un cycle qui est en train de s'achever en Chine ?
Oui, on peut dire que la Chine est peut-être en train de vivre les dernières années des 30 glorieuses à la chinoise, peut-être. Alors maintenant, est-ce que c'est une décélération de la croissance qui va les amener à être aux alentours de 3-4%? Je ne pense pas, parce qu'il y a des poches de croissance encore très importantes. Mais c'est vrai que les années où on
a... Mais ça a l'air compliqué de juger ce qui va se passer. Bon, évidemment, oui, c'est dans le futur,
c'est
donc
très
par
difficile,
définition.
Mais on sait que les années de 10 ou 11, ou voire parfois plus, puisqu'on a eu par moment jusqu'à 12% de croissance, ces années-là sont terminées.
Alors, il y a certains économistes dits sérieux qui parlent même de 2% de croissance pour 2016. Alors là, ça vous paraît excessif, réaliste, difficile à mesurer ?
Oui, dans la mesure où quand même nous avons des indicateurs sur la consommation, sur un certain nombre de secteurs qui sont liés aux services, qui restent quand même extrêmement, extrêmement dynamiques. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, c'est une décélération finalement du rythme des investissements et notamment dans l'industrie lourde et dans la construction qui a été le moteur véritablement de la croissance depuis la fin des années 90.
Alors Thierry Sanjuan, votre sentiment sur ce qui est en train de se passer en Chine, fin d'un cycle, fin d'un modèle, décélération, comment vous analysez les choses ?
Je pense que les choses ont réellement changé à partir de 2008, à la fin des années 2000, quand justement la Chine n'a plus été dans la croissance à deux chiffres. Et on a plusieurs indicateurs qui montrent un vrai bouleversement de la société et des territoires en fait en Chine, avec notamment la population urbaine qui est devenue plus nombreuse en 2010-2011 que la population rurale. Donc la ville prend le pas finalement sur l'ensemble du territoire, et nous avons de nouveaux équilibres qui se mettent en place avec l'émergence d'une classe moyenne propriétaire de son logement, d'une extension de la ville, d'une mise en réseau en fait de la structure économique du pays.
Mais en nouveaux équilibres qui se mettent en place ou nouveaux déséquilibres ?
Alors c'est effectivement compliqué. C'est, je pense, de nouveaux équilibres en termes de maturation de la société, de maturation des espaces et de leur modernisation, et à la fois de nouveaux déséquilibres qui sont issus des réformes directement de 30 années de réformes 1978-2008 ou fin des années 2000, peu importe, où on paye en fait une croissance à tout prix en termes environnementaux, en termes sociaux, et là il y a eu des réformes radicales, notamment dans les années 1990, dont la Chine doit gérer aujourd'hui les conséquences.
D'ailleurs c'est intéressant, hein, parce que cette politique du chiffre, bon, la Chine n'est pas la seule à l'adopter, mais elle continue puisqu'il y a toujours des objectifs chiffrés pour le futur. Alors justement, à propos de chiffres, je faisais tout à l'heure la distinction entre chiffres officiels, chiffres non officiels. On sait que la Chine contrôle les chiffres, un instrument de statistiques nationales comme d'autres pays. Est-ce que ces chiffres sont crédibles ou pas ?
Alors, pour certains d'entre eux, non.
Et on le sait. Lesquels, par exemple ?
Par exemple, si vous prenez le chiffre du chômage, on est aux environs de 4% depuis 40 ans. Donc au moment où on a eu effectivement ces grands programmes de restructuration du secteur public dans les années 90, on savait parfaitement, et d'ailleurs la Banque mondiale avait eu l'occasion de faire des études dans un certain nombre de bassins d'emploi qui étaient très touchés par les restructurations, on se situait très clairement au-dessus de 20% de taux de chômage. Sauf que ça ne se reflétait pas dans les chiffres. Alors, il y a plusieurs explications. Il n'y avait pas d'assurance chômage, donc les gens n'étaient pas incités à aller s'inscrire. Donc, ces chiffres-là ne correspondent à rien. Par contre, à l'inverse, si vous prenez par exemple les chiffres du commerce extérieur, même si on peut débattre à un certain moment donné, il y a Hong Kong qui est un peu au milieu, qui complique un peu les choses, mais quand vous avez des exportations, vous êtes obligé de retrouver ça de l'autre côté, dans un autre pays, sous forme d'importation. Donc ces chiffres-là, ils sont plus crédibles.
On a quand même beaucoup dit, en Union soviétique, on a faussé les chiffres, ça se retrouve en Chine pour vous, non ?
Autant dans les années, bien sûr, 60, 70, on était comme en Union soviétique, sur véritablement on contrôlait politiquement les chiffres. Autant aujourd'hui, il faut bien voir aussi que le pouvoir chinois a aussi besoin de chiffres pour piloter son économie. Donc les chiffres de la croissance, ils sont peut-être inférieurs à ce que nous avons aujourd'hui officiellement, mais globalement, je pense qu'on est pas très loin de la réalité aujourd'hui sur les chiffres de croissance. Il y a quelques incertitudes, mais ça concerne vraiment les spécialistes qui travaillent sur des choses très très pointues.
Alors, je voudrais peut-être pour nos auditeurs donner quelques chiffres, justement, pour qu'ils prennent la mesure de ce qu'il se passe en Chine. Donc, un fret ferroviaire en chute de 15%, l'investissement sur un an qui a chuté de 8%, des ventes de voitures qui reculent aussi de 10%, voilà, des chiffres un peu disparates. Thierry Sanjuan, de quoi souffre en fait l'économie chinoise aujourd'hui ? C'est difficile de répondre, c'est beaucoup de facteurs en même temps.
Conjoncturellement, vous avez parlé des crises boursières qu'elle a connues l'année dernière et qu'elle est en train de connaître actuellement. Ce qui est certain, c'est ce dont souffre la Chine depuis le début des réformes, c'est de ne pas réussir à couper le lien entre le politique et l'économique. Hier, dans les années 80, le politique, notamment l'État local au niveau du bourg, du district, du village ou de la municipalité, était acteur direct du développement, à savoir il possédait les entreprises. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes puisqu'il y a eu des politiques de privatisation. Mais même pour les grands groupes chinois, les principaux actionnaires sont les anciennes autorités publiques qui sont actionnaires en fait de ces groupes via parfois les banques qui leur appartiennent. Ce qui veut dire qu'il y a une très, très forte opacité du monde économique chinois et un acteur politique qui est toujours un acteur décisionnel, même si aujourd'hui il est devenu un acteur indirect, plus exactement.
Vous êtes d'accord, Jean-François Huchet, sur ce constat, le lien trop fort entre politique et économie qui serait un frein au développement chinois, la croissance chinoise ?
Oui, et c'est d'ailleurs, je crois, dans les réformes économiques que le gouvernement doit appliquer, parce que le constat a été fait depuis la fin aujourd'hui du plan de relance, on va dire, qu'on doit mettre véritablement en application un certain nombre de réformes économiques. Mais les implications sont très fortes justement sur le lien entre le monde politique et le monde économique. Vous prenez par exemple la réforme du secteur public. On s'est débarrassé dans les années 90 des petites et moyennes entreprises d'État. Aujourd'hui, il s'agirait de passer à une deuxième étape de privatisation des très grandes entreprises, mais ça veut dire qu'on remet en cause tout le lien entre le Parti communiste et le secteur public, sans parler même des familles, des leaders
qui
contrôlent une partie des entreprises.
Un petit peu ce qu'a essayé de faire en partie le président Xi Jinping avec cette lutte anti-corruption.
Non, je pense que c'est assez différent dans la mesure où la lutte anti-corruption, d'abord, on fait peur en s'attaquant à la bureaucratie qui est au niveau intermédiaire.
29 000 responsables,
oui,
quand même,
tout à fait. Beaucoup
les
plus,
chiffres sont impressionnants.
Plus. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Mais ensuite, au très haut niveau, on se débarrasse avant tout de ses ennemis. Et ça, c'est un grand classique, si vous voulez, des mouvements anticorruption tels qu'on a pu les connaître, même d'ailleurs à un certain moment donné sous Mao. Ce qui est plus nouveau d'un point de vue du politique, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la Chine va devoir, par exemple, sur l'aspect financier, va devoir couper le cordon ombilical entre le politique et l'économique, sur la monnaie aussi, par exemple.
Tiens, Jean, vous vouliez réagir?
Oui, on peut prendre un exemple. Jean-François parlait tout à l'heure du BTP, par exemple. Les autorités locales chinoises ont pendant une vingtaine d'années profité en fait d'une extension de la ville, de s'approprier des terres agricoles en transformant en terres constructibles, et donc en indemnisant très peu les paysans, en faisant des opérations immobilières, alors que ces opérations immobilières restent pour souvent vides. Des bureaux qui restent vides, des
résidences. On parle même de villes fantômes, notamment dans le nord, dans la Mongolie intérieure.
Là, c'est typiquement un acteur politique local qui veut faire du développement de l'argent pour lui-même et qui profite et gaspille en fait ses ressources locales. Et face à cela, l'État central, depuis 3-4 ans, lui dit « Vous allez arrêter de gaspiller l'espace, d'autant plus qu'on en a besoin pour des surfaces agricoles, dont manque considérablement la Chine par rapport à sa population. » Et ils essayent de réorienter en fait l'activité et le dynamisme des autorités locales vers des secteurs économiques plus libres, plus industriels, et non pas simplement cette logique de BTP et d'opérations immobilières à perte de vue.
Est-on en train d'assister à la fin du modèle chinois? C'est le débat de ce soir avec nos deux invités. Jean-François Huchet, professeur de l'université à l'INALCO. Thierry Saint-Juan, professeur de géographie à l'université Paris 1. Alors, parmi les réponses du gouvernement, vous venez de nous en donner quelques-unes. Il y a aussi ce 13e plan quinquennal qui a donc été adopté au mois d'octobre, qui confirme officiellement, alors je cite, la volonté des autorités de poursuivre la transition vers un modèle axé sur la demande intérieure et une montée en gamme de l'industrie. Alors, Jean-François Huchet, ça veut dire quoi poursuivre la transition vers un modèle axé sur la demande intérieure? C'est très abstrait pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la Chine?
C'est vrai que pour l'instant, on avait donc une monnaie chinoise qui était plutôt sous-évaluée, des coûts salariaux qui étaient très bas et qui ont permis effectivement à la Chine de développer ses exportations. Mais il y avait, c'est vrai, une sorte de déficit de consommation par rapport à un niveau d'investissement qui était très élevé en Chine, notamment dans tout le secteur de la construction.
Malgré l'émergence quand même d'une grande classe moyenne, c'est ça qui est un peu paradoxal.
Oui, alors ça veut pas dire que la consommation n'augmente pas, mais elle augmentait moins vite que les investissements. Et donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une décélération effectivement de l'investissement, notamment sur toutes les infrastructures et la construction, ce qui explique la baisse du taux de croissance. Et il faudrait effectivement que la consommation augmente. Et il y a trois raisons qui expliquent pourquoi cette consommation a du mal à augmenter. Il y a d'abord la répartition des richesses, donc la distribution de salaires qui n'a pas été suffisamment rapide jusqu'à une période très récente. La construction qui est loin d'être achevée du système de protection sociale, qui fait que les gens épargnent et ne consomment pas. Et puis il y a une raison qui est un peu particulière, qui tient effectivement au système financier, à savoir quand les gens ont placé leur argent sur des comptes bancaires, ils ont été très mal rétribués parce que les taux d'intérêt étaient souvent inférieurs à l'inflation, et donc du coup il y avait un manque à gagner qui n'allait pas vers la consommation. C'est en train de changer.
Donc en fait on sait exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est ça? On a bien diagnostiqué, on a les outils, les dirigeants chinois savent quoi faire et ils sont en train de le faire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui, mais pour la classe moyenne chinoise, le meilleur investissement, c'est l'achat immobilier.
Et
donc ça entraîne, ça nourrit la
bulle immobilière, donc c'est un peu sans fin.
La logique immobilière.
Alors il faut voir aussi qu'il y a un effet de rattrapage. Il faut bien voir qu'au début des réformes, il y avait à peu près 9 mètres carrés par habitant de surface disponible. Aujourd'hui, on est aux alentours de 35 mètres carrés. Je pense que les Chinois se rapprochent, et heureusement pour la planète, plutôt des Européens, donc vers 40 mètres carrés, et pas des Américains, parce que sinon, pour vous donner un chiffre, ils ont utilisé en l'espace de 4 ans, entre 2010 et 2014, plus de ciment que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Pour vous, on le voit au niveau des négociations sur l'avenir du climat, c'est une bonne chose qu'on arrive à un pic en matière de construction et donc d'utilisation du charbon et de l'industrie lourde. C'est aussi une très bonne chose. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a eu aussi des excès de construction dans les infrastructures, d'un certain nombre de bureaux de luxe, de villas qui ne servaient à rien du tout. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de construire de l'habitat social pour ces gens qui arrivent des campagnes et qui veulent accéder à des quand même à un logement.
Les fameux Mingong, les migrants qui arrivent pour travailler.
Et essayer de fixer les migrants, d'ailleurs, dans la ville. Car on sait très bien qu'une bonne partie d'entre eux ne retournera pas à la campagne. Donc il faut là progressivement inventer des statuts intermédiaires qui permettent de les stabiliser en ville ou dans les périphéries des villes pour qu'ils deviennent en fait des citoyens urbains comme les autres.
Alors je voudrais aussi qu'on en vienne à une question peut-être un peu plus politique. Pendant des années, la croissance a été présentée comme un rempart par le gouvernement chinois face aux troubles sociaux. Alors est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement chinois craint des troubles sociaux puisque cette croissance s'essouffle un peu, Thierry Sanjuan?
Le gouvernement chinois craint évidemment des troubles sociaux, d'autant plus qu'il sait bien ce que c'est. Il en connaît depuis 66 ans. Il en connaît depuis les réformes. Il en connaît dans tous les coins, dans tous les villages, dans toutes les villes.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau?
De ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, peut-être, c'est une caractérisation systématique des mécontentements quand ils deviennent violents, parce qu'il y a une montée en violence de la société chinoise, et d'une caractérisation par l'État chinois du label terrorisme pour contrer tout ce qui peut être une opposition.
Alors,
et pas simplement au Xinjiang.
Oui, alors justement, le Xinjiang, j'allais y venir, donc cette province du Nord-Ouest qui est à majorité musulmane, qui cristallise, c'est vrai, une réaction assez violente des autorités. Est-ce que c'est pour vous, Jean-François Huchet, le signe d'une fébrilité du pouvoir chinois aujourd'hui?
Non, il y a un contrôle de l'armée et du système politique sur ces régions, que ce soit le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie intérieure, je dirais quasi total. Donc il ne faut pas y voir une fébrilité ou y voir un signe de fragilité, ou il ne faut pas non plus voir la possibilité de justement de voir le régime être inquiété par ce qui se passe dans ces régions. Alors il peut y avoir dans un moment de crise, mais qui n'est pas encore aujourd'hui. C'est vrai que ces régimes, nous l'avons vu en 1989, sont des régimes qui sont extrêmement centralisés. Et si quelque chose de similaire pouvait, à un certain moment donné, survenir, c'est-à-dire on a une paralysie de l'appareil de répression, de l'appareil de propagande, et donc il peut se passer des choses, effectivement, dans la périphérie. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On le sait au Tibet, on le sait au Xinjiang, mais on l'a vu à Hong Kong aussi, avec la révolution des parapluies. Il y a dans les périphéries des choses qui sont susceptibles effectivement d'inquiéter un petit peu le pouvoir chinois, mais pour l'instant...
Mais par exemple l'expulsion dont on a beaucoup parlé de notre consoeur Ursula Gauthier, qui avait écrit sur le Xinjiang, est-ce que c'est quand même pas le symbole de quelque chose? C'est un geste qui est adressé à qui, Thierry Sanjuan? Pas du tout à la population chinoise?
Non, parce qu'elle n'en sait rien. Ils ont monté la population chinoise contre Ursula Gauthier en disant que elle faisait deux poids deux mesures. Ursula Gauthier a manifestement été traînée dans la boue dans les journaux, dans tous les réseaux sociaux chinois, et le déclencheur patriotique, si vous voulez, a permis au pouvoir de dévaloriser le travail d'Ursula Gauthier, et elle a été une journaliste qui a été à laquelle on a retiré son permis de travailler en Chine, mais ça avait déjà été le cas pour d'autres journalistes étrangers.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission qui sera retrouvée d'ici quelques minutes sur RFI.fr. Merci à nos deux invités, Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO, directeur de l'équipe de recherche ASI, Thierry Sonjuin, professeur de géographie à l'université Paris 1, auteur de l'Atlas de la Chine, paru aux éditions Autrement. Merci également à Alexandre Serre, à Valentin Vanner pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve demain. Faut-il supprimer les soldes? Un tout autre sujet d'ici là. C'est le journal En français facile qui vous est présenté par Priscille Lafitte et Sylvie Berruet. À tout de suite.